Jésus a grandi dans un monde agricole et il a très souvent pris des choses qui touchent le monde agricole pour parler de la vie du quotidien, mais au-delà de la vie, pour parler du monde de Dieu et du monde spirituel. Et ce matin, je voudrais faire comme Jésus, et moi aussi, je voudrais parler de ce qui touche de près à notre vie en partant du monde agricole. Le monde agricole, lorsqu'on l'observe, peut nous montrer des choses très importantes qui concernent notre vie. Et donc, avant toute chose, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui, selon vous, est nécessaire pour faire une belle moisson? Alors, il y a ceux qui connaissent déjà la réponse. Il ne faut pas qu'ils trichent. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire une belle moisson? Une bonne terre. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Alors, attendez, parce que j'ai amené de la bonne terre. Ça, si vous prenez de la terre et que vous mettez des choses dedans, ça, c'est vraiment de la qualité. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Là, j'ai pas entendu. De l'eau. D'accord. Là, il y en a qui commencent par... Dans le désordre, hein. D'accord. Donc, de l'eau. J'ai de l'eau ici. Et puis, il faudrait surtout les graines. Voilà. Prenez-en de la graine, hein. Donc, j'en ai ici. Des graines. De la semence. Et bien sûr, il y a d'autres choses. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter à ces trois ingrédients. Donc là, vous avez bien répondu. Il faut de la semence. Il faut de la bonne terre. Et il faut de l'eau. Là, vous savez que d'autres avant vous connaissaient aussi la réponse. Nous trouvons dans la Bible un texte qui a répondu à ma question de la même manière que vous. Et c'est pour cela que la Bible est un livre vraiment pertinent qui parle à notre vie aujourd'hui. Alors la Bible parle de semences, elle parle de bonne terre, elle parle d'eau. Mais ce n'est pas pour faire un cours à des paysans qui auraient besoin de savoir comment faire la culture des champs. Non, non. La Bible, en parlant de ces choses-là, elle s'inspire du monde agricole pour parler d'une autre moisson qui est plus importante. C'est la moisson qui touche à notre propre vie. Vous savez que un jour ou l'autre, nous moissonnerons. Autrement dit, un jour ou l'autre viendra le temps où nous ferons le bilan de notre vie. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Si ce n'est pas après-demain, c'est l'année prochaine. Mais un jour, nous serons tous face à la fin de notre vie. Et je ne pense pas qu'on échappe à cette question. Ai-je fait une belle moisson de ma vie? La Bible est là pour nous aider à faire une belle moisson de notre vie. Elle va nous montrer comment nous pouvons avoir une vie fructueuse, comment nous pouvons avoir une vie satisfaisante, comment nous pouvons avoir une vie libre, une vie qu'on peut mener dans la paix. Ces conseils ont été donnés à tous les hommes et femmes depuis l'origine des temps et surtout quand Dieu a commencé à parler aux hommes à travers des prophètes qu'il a choisis pour leur communiquer ses conseils. C'est ce qu'il va faire avec un peuple en particulier, le peuple d'Israël, à qui il a donné des conseils pour qu'ils sachent comment faire une belle moisson de leur vie. Et Dieu a invité et encouragé le peuple à le faire parce qu'en regardant la vie de ce peuple-là, il se rendait compte qu'il n'était pas sur le bon chemin. Le peuple voulait faire une bonne moisson, mais il s'y prenait mal. Alors Dieu va leur parler, et notamment dans un passage que je vais lire avec vous, sur lequel nous allons nous arrêter, mais c'est un passage qui est vraiment très important pour nous, et je voudrais de tout mon cœur que vous écoutiez ces conseils et que vous les receviez comme des conseils qui peuvent changer le cours de votre vie et qui peuvent vraiment avoir un impact puissant et fort parce que c'est des conseils qui ne sont pas simplement de la sagesse humaine, c'est des conseils qui sont de la sagesse de Dieu même. Alors nous allons lire ce passage qui se trouve dans un livre dans la Bible par le prophète Osée. Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défraîchissez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Vous avez labouré, préparé le terrain pour la méchanceté. Vous avez moissonné de l'injustice et du mensonge, vous en avez mangé le fruit. Car vous avez placé votre confiance dans votre politique et dans la multitude de vos guerriers. Alors, est-ce que vous voyez bien dans ce passage les trois ingrédients qu'il faudrait pour avoir une belle moisson? Il est question de semer, il est question de défricher un champ nouveau, et il est question de pluie qui vient du ciel. C'est Dieu qui donne cette pluie-là. Donc j'aimerais qu'on regarde ces trois ingrédients les uns après les autres. Et donc le premier ingrédient, tout à l'heure il y en a qui ont commencé avec la bonne terre, moi je vais commencer avec les graines, avec la semence. Vous avez remarqué le verset 12, « Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. » Ou alors « Semez ce qui est juste. » Moi je trouve que ces mots-là doivent vraiment retentir avec force dans notre cœur et dans notre société. Parce que quand nous regardons le monde, qu'est-ce que nous observons? Ben que la moisson parfois est catastrophique. Et pourquoi la moisson est catastrophique? La moisson, ce sont les guerres, ce sont les conflits, ce sont les inimitiés entre les peuples voisins. Vous avez remarqué que plus on est près les uns des autres, plus on se tape dessus. Et c'est vrai. Elle a fait l'expérience, Carole. Ne tape pas Carole, ne tape pas Nathalie. Les conflits naissent parce que la semence n'est pas peut-être ce qu'il faut semer. Mais vous savez qu'on ne peut pas s'empêcher de semer. Semer, ça veut dire tout simplement agir. Nos actes sont une semence. Et comme nous sommes des êtres vivants, nous allons forcément agir et donc produire des actes. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai semé hier. La Bible dit qu'on ne se trompe pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, il le récoltera. Ce qu'on sème, ce qu'on a semé hier, fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que je serai demain, c'est ce que je sème aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai semé hier. Ce que je serai demain, c'est ce que je serai en train de semer aujourd'hui et pour l'avenir. Je crois que nous pensons tous que nous semons de bonnes choses. Mais en réalité, nous pouvons bien souvent nous tromper parce que ce que nous croyons être une bonne semence, il se trouve que c'est une mauvaise semence. Quand j'étais jeune, papa était un ouvrier et elle avait en même temps un champ dans lequel il cultivait très souvent de la tomate. Bon, c'était un petit champ qui faisait peut-être un hectare. Et donc, ce qu'il nous demandait, c'est de travailler avec les ouvriers qu'il embauchait. Et quand il plantait les plants de tomates, au bout de 15 jours, vous savez ce qui se passait? 50 cm d'herbe mauvaise. Et on ne voyait pratiquement pas les plants de tomates parce qu'ils étaient complètement dévorés par ces mauvaises herbes. Alors, le papa nous disait, bon, il va falloir faire quelque chose. Donc, il embauchait deux ou trois ouvriers. Et nous, ses enfants, il nous disait, bah, allez, vous allez arracher. Ça me fait encore mal. Hein. Parce que c'était vraiment très dur d'arracher l'herbe qui était très haute. Et il fallait surtout pas arracher les plantes de tomates avec. Et on arrachait ces plantes-là. Et 15 jours après, on revenait, on était content. Et qu'est-ce qu'on trouvait? La mauvaise herbe avait encore poussé. On avait beau arracher, la mauvaise herbe revenait. Et papa était très souvent désolé parce que les plants de tomates restaient des nains. Et vous savez pourquoi? Parce que le terrain lui-même était mauvais. Parce que de sa propre nature, ce terrain ne pouvait que produire de la mauvaise herbe. Et il en est ainsi de nous. C'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël et il pourrait dire ça à chacun de nous. Regardez ce qu'il dit au verset 13. Vous avez labouré, préparé le chemin ou le terrain. Pourquoi? Pour la méchanceté. Qui de nous volontairement veut semer la méchanceté? Mais parfois, c'est notre semence qui est, plus forte que nous. Et nous semons donc, parfois, nous nous trompons, nous croyons que c'est une gentillesse, mais en réalité, c'est une méchanceté, oui. Nous avons le don de transformer le mal en faisant croire à nous-mêmes que c'est du bien. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire ça. Si je voulais prendre un exemple, je dirais que notre vie ressemble à un jardin dans une maison. Nous aimerions tant que notre jardin soit rempli de belles fleurs, qu'il y ait des roses et je ne sais pas quoi d'autre. Des fleurs comme ceux-là, vous voyez là. Là c'est, on va pas dire le nom. Hein. Du cosmos. C'est des fleurs magnifiques. On aimerait semer ces fleurs et que le jardin soit rempli de fleurs. Mais souvent, on se rend compte que notre jardin, c'est-à-dire notre vie, ne produit pas forcément de belles fleurs, il va produire de mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que c'est en nous. Ces mauvaises herbes font partie de notre nature. Comme ce terrain qui ne peut pas ne pas produire de mauvaises herbes, eh bien, l'expérience humaine nous montre que nous ne pouvons pas ne pas produire de mauvaises herbes. Et le problème, c'est que notre gentillesse, notre bonté, notre compassion, parfois, se perdent vite fait à cause de ces mauvaises herbes. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est plein de gentillesse, mais alors quand il se met en colère, je vous dis pas, hein, Carole. Quand il se met en colère, eh ben vous avez l'impression que toute cette gentillesse qu'il manifeste au quotidien a disparu et ne reste que cette colère qui détruit tout et qui ravage tout. Et nous faisons malheureusement l'expérience de ça. C'est-à-dire que au fond de nous-mêmes, nous désirons le pardon et nous vivons dans la culpabilité. Au fond de nous-mêmes, nous désirons la communion les uns avec les autres et nous pouvons faire l'expérience de la solitude. Au fond de nous-mêmes, nous désirons et nous voulons semer des actes de paix et en réalité nous arrivons à des conflits, à des chamailleries. Au fond de nous-mêmes, nous voulons aimer et en réalité, c'est la haine qui peut dévorer notre cœur. Parfois, certains ne veulent même pas parler d'amour. La mauvaise graine est tellement là et elle occupe tellement le terrain que ça leur semble naturel de la manifester mauvaise qu'elle est. Et du coup, cette semence que nous avons qui est mauvaise, il faut absolument qu'on s'en débarrasse et il faut qu'on obtienne une bonne semence. Mais où obtenir la bonne semence? Comment est-ce possible de recevoir des pensées, des actes, des sentiments, une volonté qui va produire une belle moisson, qui sera une bonne semence? Il n'y a pas d'autre possibilité que de s'adresser à Dieu et lui demander de faire naître en nous ses pensées, ses actes. Autrement dit, c'est Dieu qui est vraiment la source des actes bons, des semences qui sont bonnes. Il y a un homme qui se promenait dans un marché et voilà qu'il voit un stand avec un vendeur particulier. Ce vendeur, c'était Dieu. Vous imaginez la joie de la personne. C'est une histoire, Dominique. Donc, il va tout content vers la personne de Dieu en disant, « Mais qu'est-ce que vous vendez ?» Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu voudrais, toi ? Quand Dieu vous pose cette question, ben vous allez demander plein de choses pour vous et pour le monde entier. Donc la personne commence à énumérer tous les désirs qu'elle veut. Mais je voudrais que tout le monde soit libre. Je voudrais que nous soyons dans la paix les uns avec les autres. Je voudrais que l'amour et la fraternité et la solidarité dominent. Je voudrais que tu me donnes tout cela, non seulement à moi, mais au monde entier. Et Dieu lui dit, c'est vraiment bien ce que tu désires. Mais ce que tu veux là, ce sont des fruits. Mais pour avoir ces fruits, il faut d'abord avoir les graines. Et moi, je n'ai que des semences à t'offrir pour l'instant. Tu as besoin de graines et je les ai pour toi. Vous pouvez véritablement vous adresser à Dieu pour lui réclamer qu'il vous accorde ses actes nobles, ses actes vertueux, ses actes de bonté, de compassion, de miséricorde, ses actes justes, semés pour la justice. Dieu nous ordonne, nous commande, mais il nous donne en même temps ce qu'il nous commande de faire. Et je veux bien imaginer que vous le faites, que vous vous adressez à Dieu en lui disant, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu m'accordes cette bonne semence. Alors, vous avez votre bonne semence maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Pardon? Merci Jérémy. Je crois qu'il n'y a que Jérémy là ce matin. Hein. Donc, votre semence. Ben, si vous voulez avoir une belle moisson, il va falloir la semer. Donc, vous allez la semer dans de la terre. Donc, je vais semer. Alors, je vais faire un trou dans de la bonne terre, parce que hier, j'ai fait la même expérience et on m'a dit, mais ça va pas pousser. Donc, je vais vous envoyer à tous une photo, vous allez voir. Il y aura de magnifiques fleurs dans 15 jours. Vous allez voir. Ben, je vais changer de pot, forcément. Je vais acheter un pot avec de magnifiques fleurs qui auraient déjà poussé. Je vous enverrai la photo. Mais la seule fois où j'ai planté des fleurs, ça n'a pas poussé. Donc, par contre, les tomates, je sais. Alors, on va faire l'expérience, n'est-ce pas? Donc là, je mets mes graines. Quand on plante des fleurs dans une terre, des fleurs, des semences, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que la terre elle-même soit bonne et propice à la germination, à ce que ces plantes poussent. Il faut avoir une bonne terre. Il ne suffit pas d'avoir de la terre. C'est pour ça que Dieu dit à ce peuple et à chacun de nous, semez pour la justice. Mais il ne se contente pas de dire semez pour la justice. Il ajoute, défraîchez-vous un champ nouveau. Parce que le peuple qui avait de la semence que Dieu lui a accordée, il l'a semée dans des cœurs qui était rempli de mauvaises herbes, rempli de cailloux, rempli de choses qui étaient dures. Et Dieu leur dit donc, vous avez besoin de défricher votre terrain, votre champ. Vous savez, vous avez déjà vu un terrain ou une terre en friche. C'est une terre qui est remplie d'herbes qui ont séché, qui empêche justement la bonne semence de grandir. Et comme Jésus l'a raconté, il y a différentes sortes de terres. Il y a des terres avec des cailloux énormes. Là, vous pouvez semer ce que vous voulez, ça ne poussera pas. Il y a des cailloux avec, comme Jésus l'a raconté, des ronces qui vont pousser. Et si vous ne nettoyez pas le terrain, ça ne servira à rien. Vous n'aurez pas de bonnes fleurs, vous n'aurez pas une belle moisson. Et voilà que Dieu demande donc à ce peuple, défraîchez-vous un champ nouveau. Autrement dit, il va falloir que vous preniez la décision de faire le ménage dans votre vie. Faire le ménage dans sa vie. Autrement dit, enlever ces choses qui nous dévorent de l'intérieur. Nous faisons tous l'expérience de ces choses qui sont là. Mais vous savez, le problème, c'est que on n'a pas la force de se les arracher. Et comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre nature que ces mauvaises habitudes, ces mauvaises semences, ces mauvaises herbes poussent. Qu'est-ce qu'il faudrait en réalité? Il faudrait carrément un champ nouveau. Parce que Dieu dit, défraîchez-vous un champ nouveau. Pas simplement essayez de changer un peu votre terrain, essayez de le nettoyer. Non, vous avez besoin d'une nouvelle terre. C'est comme si Dieu disait à chacun, vous avez besoin non seulement d'une semence qui va pousser, mais d'un lieu propice qui va accueillir cette semence que je vais vous donner. Et ce lieu propice, c'est nos pensées, c'est notre volonté, c'est notre cœur, c'est nos sentiments. Ce lieu propice, c'est notre vie. Et si notre cœur n'est pas changé, si notre vie n'est pas changée, on pourra semer tout ce qu'on voudra, que Dieu nous donnera, ça ne poussera pas. Il y a des choses, peut-être, là je parle aux chrétiens, il y a des choses peut-être qui encombrent votre vie et qui ont besoin vraiment d'être arrachées. Alors si vous êtes chrétien, vous avez la force de la part de Dieu de les arracher. Si vous êtes croyant, Dieu vous a déjà donné sa force pour que vous vous débarrassiez de ces terres qui sont en jachère, pour que votre cœur soit renouvelé parce que Dieu a déjà agi pour vous. Et si vous ne croyez pas, Dieu est prêt à faire quelque chose pour vous. Dieu est prêt à devenir le jardinier de votre vie. Dieu est le jardinier de tous ceux qui sont prêts à lui offrir leur vie comme le champ dans lequel il va travailler. La Bible nous dit, dans plusieurs passages, que nous sommes le champ de Dieu. Et nous sommes même le jardin de Dieu, qu'il veut embellir au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Et si nous disons au Seigneur, sois le jardinier de ma vie, il va vraiment faire le travail nécessaire en changeant le terrain, en le rendant propice à une belle semence et ensuite à une belle moisson. Après la bonne semence, après la bonne terre, qu'est-ce qu'il faudrait là? Je viens de semer. Donc voilà, il faudrait de l'eau. Donc là, je vais verser de l'eau et je peux attendre vraiment qu'il y ait une bonne floraison de mes fleurs. En tout cas, si ce qui se passe dans le monde physique ne marche pas toujours, une certitude est annoncée par Dieu, c'est que dans le monde spirituel, ça marchera. Si vous demandez à Dieu une semence, et si vous demandez à Dieu un cœur nouveau, vous pouvez absolument vous attendre à ce que Dieu vienne, vous savez quoi faire? Arroser le tout. Parce que cette eau, elle vient de la part de Dieu. Vous avez remarqué? Défraîchez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers le Seigneur en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir pour vous la justice. C'est Dieu qui fera pleuvoir. Si nous demandons à Dieu une bonne semence, une bonne terre, il viendra déverser son eau sur nous. Et l'eau, dans la Bible, est toujours, très souvent en tout cas, synonyme de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est prêt à venir lui-même faire le travail de jardinier dans notre vie, pour que ce que nous avons semé pousse et devienne vraiment une belle moisson. Nous croyons que Dieu veut accorder son esprit à tous les humains. Nous croyons que Dieu est prêt à donner son esprit à tous ceux qui le lui demandent. Nous croyons que Jésus-Christ est venu sur terre pour partager la vie des hommes. Le Fils de Dieu, pour les chrétiens, est venu il y a 2000 ans pour devenir un humain afin de partager la vie des humains. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu veut infiniment plus. Ce qu'il veut, c'est que les humains partagent aussi sa vie. Donc quand Jésus est venu, il nous a dit, je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Autrement dit, Dieu lui-même va être présent au milieu de vous. Non seulement au milieu de vous, mais Dieu va être présent en vous. Si je pouvais, je ne sais pas si je pourrais inventer un nouveau mot. Vous savez comment est-ce qu'on dit Jésus avec nous? Emmanuel. Jésus avec nous, Dieu avec nous, c'est Emmanuel. Mais il y a aussi l'Esprit en nous. Il faudrait peut-être qu'on invente un mot pour ça. L'Esprit en nous. Dieu avec nous, c'est le Christ. L'Esprit en nous, c'est Dieu envoyé par l'Esprit de Dieu envoyé par le Christ. Si Jésus a partagé la vie des hommes, les hommes partagent la vie de Dieu quand ils reçoivent l'Esprit. C'est la plus belle des choses qui puissent arriver. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans votre vie, alors là, vous avez une nouvelle force. Vous avez la vie de Dieu qui vient s'implanter en vous. La vie de Dieu, c'est comme une pluie qui va s'infiltrer dans la terre et produire de magnifiques fleurs. L'Esprit de Dieu qui vient habiter dans votre vie va s'infiltrer dans tous les recoins de votre vie pour produire des choses qui vont durer. Là, j'ai devant moi des fruits, mais je ne sais pas si quelqu'un en voudrait. Hier, on a essayé de manger tous les... Carole, est-ce que tu voudrais des raisins? Oui, c'est des raisins en plastique. Ça dure pas, hein. Parfois, nous portons des fleurs, des fruits, mais c'est du toc. Il y en a même qui se les mettent exprès, hein. Je me rappelle une fois, il y avait un papa, son fils a planté des tomates. Il n'y avait vraiment pas de tomates. Alors, il lui a mis une fausse tomate dans la plante pour lui faire croire qu'il y en avait une de qui a poussé. Mais dans notre vie d'adulte, parfois, nous croyons que nous avons de bons fruits. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, il va produire des fruits qui vont durer pour l'éternité. Parce que ce sont des fruits vraiment éternels qui vont demeurer avec nous, non seulement jusqu'à notre mort, mais au-delà de la mort, ils traversent avec nous la mort pour qu'ils deviennent notre cadeau à Dieu. Ça, c'est la beauté de ce que l'Esprit de Dieu accomplit dans notre vie. L'Esprit de Dieu est venu parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Les paroles que j'ai lues avec vous, quelqu'un d'autre les a repris dans le Nouveau Testament. C'est Pierre qui était un ami de Jésus, qui a vécu plusieurs années avec lui, et lui aussi va parler au peuple, et voilà ce qu'il va dire. Ce n'est pas les mêmes mots, mais c'est une autre façon de parler qui revient exactement à dire la même chose. Donc, regardons dans Actes chapitre 3, le verset 19. « Changez donc d'attitude. » Pierre a parlé pendant 5 minutes et là, il arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de plus important à ceux qui l'écoutent? Eh bien, il leur dit ceci. « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Alors, des temps de rafraîchissement, c'est-à-dire une pluie descendra sur vous de la part de Dieu, de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Je relis le verset 20. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Qui de nous ne désire pas ces temps de rafraîchissement? Vous savez que parfois notre vie peut être totalement sèche. Et nous soupirons après ces temps de rafraîchissement. Dieu vous dit, je les ai pour vous. J'ai mon esprit pour vous. Si vous êtes croyant, vous l'avez déjà reçu. Et il peut rafraîchir tous les jours votre vie. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez le demander à Dieu. Et il rafraîchira votre vie. Si vous êtes dans la culpabilité, il peut vous donner le sentiment du pardon. Si vous êtes dans la frustration, il peut vous mettre au large. Si vous êtes dans l'angoisse et la peur, il peut vous apporter le réconfort et la certitude que vous êtes aimé de Dieu et qu'il prendra soin de vous. Des temps de rafraîchissement viendront sur vous. Ça veut dire que Dieu fera descendre une pluie qui va faire germer des choses magnifiques. Voilà ce que Dieu nous promet. Comment est-ce qu'on reçoit cet esprit? Comment est-ce qu'on peut le recevoir? Eh bien, c'est marqué au début, n'est-ce pas? Regardez. Changez donc d'attitude et convertissez-vous. Peut-être que nous avons une attitude à l'égard de Dieu qui est le doute. On ne sait pas trop. On hésite par rapport à notre confiance que nous pouvons placer en lui. Mais ça vaudrait la peine de réfléchir et de se dire, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup que je change d'attitude? Changer d'attitude, ça veut dire tout simplement changer sa pensée. Moi, j'aime beaucoup dire que repens-toi, c'est ça le mot, change d'attitude, repens-toi, c'est la même chose que repense-toi. Vous m'avez certainement entendu déjà dire ça. Repense-toi. Repentez-vous, c'est repensez-vous. Ça veut dire prenez le temps de savoir où vous allez. Et peut-être que ça vaut la peine de changer de direction. C'est ça ce que ça veut dire convertissez-vous. Se convertir, c'est changer de direction, changer d'orientation et prendre un autre chemin. Prenez le temps de réfléchir. Où est-ce que je vais? Est-ce que au bout du compte, ma vie sera une belle moisson ou est-ce que je serai les mains vides? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie cette belle moisson? Eh bien, tournez-vous vers Dieu. Comme le dit Osée, car il est temps maintenant de se tourner vers Dieu, vers le Seigneur, en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous. Celui qui se tourne vers Dieu va recevoir de lui une belle pluie qui va inonder sa vie, qui va le remplir de tout ce que son cœur désire au plus profond. Nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu pour la seule raison que Jésus est venu et qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Si Jésus n'a pas vécu au milieu de nous, si Jésus n'a pas subi une mort particulière, l'Esprit de Dieu n'aurait pas pu venir. Parce que c'est Jésus qui nous envoie l'Esprit de Dieu pour qu'il demeure avec nous et pour qu'il demeure en nous. Jésus-Christ est d'une certaine manière celui qui a moissonné nos mauvaises herbes à notre place. Nos mauvaises herbes nous étouffent. Nos mauvaises herbes nous enlèvent la vie. Nos mauvaises herbes nous conduisent à la mort. Jésus a dit, laissez-moi les moissonner à votre place. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Jésus nous a dit, j'aimerais aussi que vous moissonniez, vous, ce que moi j'ai semé. Jésus a semé. Il a semé la vie. Il a semé le pardon. Il a semé une belle semence. Le pardon de nos péchés. C'est-à-dire une nouvelle relation de vivre avec Dieu qui est incroyable. Où Dieu, qui a partagé notre vie, nous accorde la possibilité de partager la sienne et de vivre avec lui main dans la main. Je me vois très souvent avec cette image-là, marchant avec Jésus à mes côtés, me tenant par la main, mais moi aussi lui tenant la main. Parce qu'il est mon compagnon, mais je suis le sien aussi. C'est le choix de Jésus-Christ. C'est ce qu'il vous offre aujourd'hui. Il vous invite en vous disant, je veux moissonner à votre place vos mauvaises herbes, et vous avez la possibilité de moissonner ce que moi j'ai semé, la vie, le pardon et la joie. Quand vous pourriez faire ça? À quel moment vous pourriez faire ça? C'est tout de suite. Parce que la Bible dit, dans le passage que nous avons lu, il est temps de se tourner vers le Seigneur. Vous pourriez dire, mais j'ai le temps, demain, après-demain, ce sera du temps perdu. Vous pouvez dire, je veux prendre cette décision de marcher avec toi, Jésus. Celui qui invoque Jésus, celui qui fait appel à Jésus-Christ, va recevoir une réponse immédiate. Faites appel à Jésus, l'Esprit de Dieu viendra en vous immédiatement et vous serez une personne transformée. C'est ma prière pour chacun de vous, c'est ma demande à Dieu, c'est la plus belle des bénédictions que vous puissiez recevoir. Si vous pensez que Dieu ne fait pas partie de votre vie, c'est peut-être le moment de l'accepter afin qu'il renouvelle votre vie. Nous allons chanter un cantique avec le groupe d'Orion pour conclure et puis on priera après.